heure pour vous de retrouver Antoine Mercier pour son journal. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Au lendemain de la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 4 ans, chaque camp redoute de nouveaux affrontements. Aujourd'hui, le long de cette même frontière entre Israël et la bande de Gaza, on retrouvera sur place dans un instant Étienne Monin. Le Conseil de sécurité se réunit cet après-midi à l'initiative du Koweït. Précision des réactions internationales avec Elie Abergel. En Afghanistan, les talibans lancent une offensive dans la province de Farah. C'est à la frontière de l'Iran dont les insurgés ont essayé à 3 reprises déjà de s'emparer l'an dernier. Correspondance de Sonia Ghezali. Le chef de la diplomatie iranienne Mohammed Zarif est à Bruxelles aujourd'hui. L'objectif, c'est de sauver cet accord sur le nucléaire iranien malgré le retrait des États-Unis. Précision à Bruxelles donc de Pierre Benazé. En France, toujours le conflit à la SNCF avec le Premier ministre Édouard Philippe qui réaffirme que la SNCF va rester une entreprise publique et la ministre des Transports Elisabeth Borne qui rajoute que la loi va bien préciser que les actions de la SNCF seront à l'avenir incessibles. Analyse des conséquences de cette proposition avec Catherine Pétillon, l'invitée de la séquence interview, Salman El Herfi, qui est ambassadeur, chef de la mission de Palestine en France. Et donc tous les regards, une nouvelle fois tournés vers cette frontière entre Israël et la bande de Gaza au lendemain de la journée la plus meurtrière du conflit depuis 4 ans, avec la mort de près de 60 Palestiniens des deux côtés. On se préparait, on redoute de nouveaux affrontements. Premier jour du mois de Ramadan aujourd'hui, les Palestiniens qui commémorent la Nakba, cette catastrophe qu'ils représentent à leurs yeux la création de l'État d'Israël en 48 et l'exode qui en a suivi pour des centaines de milliers d'entre eux. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc à cette frontière. Comment s'est déroulée la matinée? Comment se présente l'après-midi?
Eh bien, pour l'instant, à cette frontière, donc à l'est de Gaza, qui s'appelle Malaka, le vent souffle dans les toiles des tentes, sur les toiles qui donnent de l'ombre à quelques personnes installées, mais il n'y a quasiment personne. On retrouve dans les acteurs de la mobilisation d'hier, principalement les ambulanciers et les journalistes. Il n'y a pas aujourd'hui de mobilisation, contrairement à hier, puisqu'à cette heure-ci, il y avait déjà bien 10 000 ou 15 000 personnes installées. Donc, pour l'appel du lundi, cet appel du mardi, qui a été lancé il y a déjà plusieurs jours, n'a pas encore trouvé de réponse. On est plutôt dans la prise en compte des funérailles des victimes et puis dans les visites à l'hôpital des nombreuses familles qui viennent voir les blessés. Cette mi-journée, la bande de Gaza accuse le coup, s'interroge pour la suite. Deux responsables du Hamas indiquent ce matin que la mobilisation doit continuer, que la marche du retour va continuer, mais c'est un appel un peu général sur la durée. Tant que le siège ne sera pas levé, disent-ils, avec un point culminant pour cette marche du retour, un nouveau point culminant, un deuxième point culminant, placé cette fois sur la journée du 5 juin, date anniversaire de l'opération israélienne qui a conduit à l'occupation de la Cisjordanie. Le Hamas est soupçonné en ce moment de vouloir ouvrir un canal de discussion avec les Israéliens. L'un des leaders affirme ce matin que le message et l'outil de la mobilisation est placé en direction de la communauté internationale, qu'il y a une volonté forte de peser maintenant avec un levier populaire, mais que l'usage des armes reste une option. Pour l'instant, la mobilisation populaire du jour n'est pas encore visible et à la mi-journée, il n'y a quasiment personne sur le point habituel de mobilisation à Malaka, près de la frontière.
Étienne Monin, peut-être un petit mot sur les raisons de ce retour au calme, on va dire, en tout cas pour l'instant, sur cette frontière.
Elles sont sans doute multiples. D'abord, il y a le coup à encaisser, celui d'hier. Ensuite, le Hamas avait tout misé sur la journée du lundi. Il y avait un cumul des appels à l'ordre avec l'ambassade américaine, mais la Nakba était déjà utilisée alors que c'est aujourd'hui le jour de la Nakba. Enfin, peut-être que les Palestiniens n'ont pas envie à nouveau de s'exposer comme hier après le résultat qu'il y a eu. Le prix à payer est quand même élevé et pour l'instant, le gain n'a pas été extrêmement important. Enfin, il y a ce canal de discussion potentiel avec les Israéliens. Peut-être que le Hamas envoie un signe en disant c'est un apaisement, donc on est en mesure de discuter et avec les Israéliens et peut-être avec l'intermédiaire de la communauté internationale. Tous ces éléments concourent sans doute à expliquer ce qui se passe. Maintenant, il faudra quand même confirmer ça dans le courant de l'après-midi. Si cette mobilisation à 16-17 heures reste en l'état, eh bien effectivement, on est dans une phase d'apaisement.
Étienne Menin, merci beaucoup. Donc, vous étiez à la frontière entre Israël et Gaza. Les réactions internationales sont depuis hier soir très nombreuses. Quelques réactions de soutien à Israël, mais de nombreuses condamnations, des appels à la retenue également, et le Conseil de sécurité qui se réunit tout à l'heure à l'initiative du Koweït, Elia Bergel.
Pour les États-Unis qui ont transféré leur ambassade à Jérusalem hier, c'est le Hamas qui est responsable de ces violences. Le Hamas provoque intentionnellement et cyniquement cette réponse, a déclaré Rachat, le porte-parole de la Maison-Blanche. Les Nations Unies ont exprimé leurs préoccupations. Je suis particulièrement inquiet, a affirmé Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Côté Union européenne, la chef de la diplomatie, Federica Mogherini, a appelé les deux parties à la retenue et souligne que des dizaines de Palestiniens, dont des enfants, ont été tués hier. Emmanuel Macron, lui, a condamné les violences des forces armées israéliennes contre les manifestants et la Russie, quant à elle, fait part de sa préoccupation profonde. Une décision symbolique, celle de l'Afrique du Sud, son ambassadeur en Israël, a été rappelée en raison du caractère grave et aveugle de la dernière attaque israélienne, une attaque que l'Arabie Saoudite a aussi condamnée. Mais les sanctions les plus dures viennent de la Turquie, qui parle d'un génocide, de terrorisme d'État, mais aussi du Qatar, du Liban, de l'Iran et de Syrie, d'Hamas, qui dénonce un massacre brutal perpétré par l'occupation israélienne. L'ONG Human Rights Watch, elle, critique la politique israélienne qui consiste à ouvrir le feu indépendamment d'un risque avéré pour la vie. Et puis, condamnation ferme d'Amnesty International pour qui ces violations des règles internationales peuvent constituer des crimes de guerre.
J'ajoute, et c'est le seul cas en Europe, que l'ambassadeur d'Israël en Irlande a été convoqué ce matin au ministère des Affaires étrangères, donc à Dublin. Quelques réactions aussi, Elia Bergel, dans la classe politique française.
Israël a défendu sa frontière, voilà ce qu'a dit Louis Alliot, le député Front National. Bruno Retailleau, le chef de file des Républicains au Sénat, a rappelé qu'on ne doit jamais acculer un peuple à la désespérance. Benoît Hamon, lui, a souligné la responsabilité des États-Unis qui ont installé leur ambassade à Jérusalem hier, justement. Et pour Jean-Luc Mélenchon, le chef de file des Insoumis, la paix agonise sous les coups de Netanyahou.
Elia Bergel, merci donc pour l'ensemble de ces réactions. On salue notre invité Salman Al-Erfi. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes ambassadeur et vous êtes chef de la mission de Palestine en France. Vous attendez quelque chose de cette réunion des Nations Unies, du Conseil de sécurité tout à l'heure?
Bien sûr. La responsabilité de la sécurité et de la paix dans le monde, c'est la responsabilité du Conseil de sécurité. Il y a un crime de guerre qui est commis contre un peuple qui manifeste pacifiquement face à une armée qui tire des balles réelles contre des manifestants civils, des enfants, des hommes, des femmes qui sont en révolte contre une situation inacceptable, un siège qui durait depuis 50 ans sous occupation israélienne. Et Israël, il viole le droit international, il viole toutes les résolutions du Conseil de sécurité. C'est à cause de ça qu'on fait recours au Conseil de sécurité, parce qu'à l'origine, la création de l'État d'Israël, le seul certificat de naissance, c'était parti du Conseil de sécurité pour Israël elle-même. Et à condition de respecter le droit du peuple palestinien dans son État, qui était défini par la résolution du Conseil de sécurité numéro 181.
Voilà, et on reviendra effectivement sur cette perspective éventuellement de nouveau plan Trump avec la solution à deux États qui continue peut-être d'être d'actualité. Encore un mot sur la situation d'aujourd'hui, cet apaisement que l'on constate en tout cas depuis ce matin, comme disait Étienne Monin.
L'apaisement, c'est une question, les gens ils sont dans une situation de deuil. C'est une déclaration, une deuil général en Palestine, et les gens, ils sont en train d'enterrer leurs morts, leurs victimes, leurs martyrs, qui étaient massacrés hier. C'est un crime odieux, un crime contre l'humanité, un crime de guerre qui a été commis hier par des soldats armés face à une population civile. C'est à cause de ça que nous demandons à la communauté internationale de la protection de notre société, de notre population qui était sous occupation, et ça c'est le droit de la communauté internationale et en particulier du Conseil de sécurité d'agir, et du procureur général de la Cour pénale d'agir lui-même pour ramener les criminels de guerre des officiers israéliens qui prennent la décision pour tuer, avec l'ordre et la légalisation d'un parlement israélien qui légalise le tir sur les enfants sans aucun prétexte.
Salman Al-Erfi, on vous retrouve dans la dernière partie de la grande table pour la séquence interview. On continue l'actualité avec ces combats très intenses qui se déroulent ce matin dans la ville de Farah, dans l'ouest de l'Afghanistan. Les talibans ont donc lancé la nuit dernière un premier assaut de leur offensive de printemps. Farah, c'est une province frontalière de l'Iran où la culture du pavot est très répandue, qui a été le théâtre d'ailleurs d'intenses combats ces dernières années, puisque les insurgés ont essayé à trois reprises de s'emparer de la capitale provinciale, de cette capitale provinciale, la correspondance de Sonia Ghezali.
Des avions ont commencé à bombarder les positions talibanes, affirment des responsables locaux à Farah. Depuis 2h du matin, explosions et tirs retentissent dans la capitale de la province du même nom. Les quartiers généraux de la police et des services de renseignement sont hors de contrôle des talibans, affirment les autorités locales. Mais selon certains habitants, des échanges de tirs nourris sont entendus dans leur secteur. Farah, frontalière de l'Iran, au lieu de la production de pavots, est sur le trajet d'un futur gazoduc partant du Turkménistan voisin, traversant l'Afghanistan, le Pakistan et débouchant en Inde, un projet auquel les talibans se sont dit il y a quelques mois prêts à coopérer. Mais cette province est aussi régulièrement le théâtre de combats entre les insurgés et les forces de sécurité. L'an passé, la capitale provinciale a subi 3 fois les assauts répétés des talibans sans jamais tomber sous leur contrôle. Et depuis l'annonce de leur offensive de printemps, il y a près de 20 jours, les insurgés multiplient les assauts dans les provinces afghanes. Les talibans ne relâchent pas leur pression, bien au contraire, par leurs multiples assauts, ils déstabilisent un peu plus chaque jour le gouvernement afghan, bien affaibli, et sous le feu des critiques de la population qui met en cause sa capacité à pouvoir la protéger.
Et on s'arrête maintenant sur les résultats des élections législatives en Irak. Dimanche dernier, le Premier ministre Al-Abadi, qui était pourtant crédité d'un large soutien international, de la récente victoire aussi face aux djihadistes, est largement distancé, comme le disaient les premières indications hier. Et c'est le parti du leader chiite Muqtada Al-Sadr qui arrive en tête, qui tend la main ce matin à tous les autres partis pour former une coalition. Éric Biégala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors pour bien qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe, quelles sont les forces qui sortent vraiment renforcées de ce scrutin qui a quand même pris la forme très claire d'un camouflet pour la classe politique en place?
Eh bien tout d'abord, bien sûr, la coalition emmenée par Muqtada al-Sadr qui arrive nettement en tête de la consultation. C'est une vraie surprise et pour le leader chiite, un retour par la grande porte sur la scène politique irakienne. Muqtada al-Sadr, on se souvient de lui, surtout de son armée du Mahdi qui dès 2003 avait pris les armes et combattu l'occupation américaine de l'Irak avant de participer aux violences intercommunautaires entre chiites et sunnites en 2006-2007, puis graduellement de s'étioler et finalement de se débander. Muqtada al-Sadr annonçait même se retirer complètement de la vie politique en 2013. Mais 2 ans plus tard, il prenait la direction d'une protestation nationale contre la corruption endémique qui règne en Irak, multipliant les manifestations à Bagdad et dans les villes du sud du pays à majorité chiite. Mais le leader chiite entendait aussi largement dépasser le clivage sectaire, s'alliant dans cette dernière campagne avec le Parti communiste et plusieurs groupes libéraux, laïque ou nationaliste. Il a fait campagne sur ces mêmes thèmes, haros sur la corruption et surtout dénonciation de toute ingérence étrangère dans le pays, particulièrement iranienne. C'est aussi ça qui manifestement a payé. Lui-même n'était pas candidat à la législative de ce week-end et donc aujourd'hui, non élu, Muqtada al-Sadr ne peut pas revendiquer le poste de Premier ministre. Par ailleurs, ne disposant pas d'une majorité suffisante à la Chambre, malgré leur victoire, les sadristes devront maintenant chercher des alliances. Le plus probable est qu'ils en trouvent une avec la coalition emmenée par Haïdar al-Abadi, le Premier ministre sortant, arrivé en 3e position lors du scrutin de ce week-end. Mais ça ne sera pas chose facile que se construire une plateforme commune. Autant Haïdar al-Abadi entretient de bonnes relations avec à la fois les Iraniens d'un côté et les Américains de l'autre, autant Muqtada al-Sadr entend lui débarrasser l'Irak de toute présence étrangère, qu'elle soit américaine ou iranienne.
Éric Biégala, le chef de la diplomatie iranienne Mohamed Zarif est à Bruxelles depuis ce matin avec comme objectif de sauver, si possible, cet accord sur le nucléaire malgré le retrait des États-Unis. Entretien ce matin avec la chef de la diplomatie européenne. Federica Mogherini rencontre tout à l'heure avec ses homologues français, allemands et britanniques. Ce sont les 3 pays donc européens signataires de cet accord. Des entretiens qui visent donc à le préserver, c'est-à-dire à éviter que l'Iran ne relance son programme nucléaire en échange du maintien de la levée des sanctions. Mais la question, c'est surtout de protéger les entreprises européennes qui sont actives en Iran des sanctions qui vont être, elles, imposées par les États-Unis. Pierre Benazé, bonjour.
Bonjour Antoine.
Donc il faut trouver des solutions techniques, mais il faut aussi quand même qu'il y ait une volonté politique générale, peut-être unanime quand même des Européens, pour s'opposer sur ce point aux États-Unis. C'est sans doute peut-être plus difficile encore que régler les questions techniques.
Effectivement, pour l'instant, Mohamed Javad Zarif a qualifié de bonne et constructive sa rencontre tout à l'heure avec Federica Mogherini, mais les solutions techniques, tangibles dont vous parliez, lui seront probablement proposées en fin d'après-midi lors de la rencontre avec les ministres français, britanniques et allemands. On a évoqué, on le sait, l'idée de commercer en euros, d'émettre des dérogations pour les entreprises européennes, des lois de blocage, mais on ne sait évidemment pas si ça semblera suffisant à l'Iran qui réclamait des garanties d'ici deux mois, même si pour l'instant l'unanimité est restée sans faille apparente entre les trois pays européens signataires du plan d'action conjoint 2015, il va falloir convaincre les 25 autres membres de l'UE de soutenir leur proposition à venir. C'est effectivement d'autant plus vrai que Donald Trump a prévenu des mesures de rétorsion que les États-Unis pourraient émettre à l'encontre de ceux qui aideraient l'Iran à enrichir de l'uranium. Certains craignent ici, par exemple, que les États-Unis lèvent l'exemption des droits de douane tant craint sur l'acier, dont bénéficie pour l'instant l'UE. Le nouveau ministre américain des Affaires étrangères, Mike Pompeo, a d'ailleurs appelé hier les trois ministres pour leur demander de continuer à coopérer avec les États-Unis et d'empêcher l'Iran de s'acheminer vers l'acquisition de l'arme atomique. Si jamais Mohamed Javad Zarif puis son gouvernement estiment suffisamment généreuses les garanties qui seront proposées aujourd'hui, peut-être y aurait-il alors pour les Européens la possibilité de lancer ces fameuses nouvelles négociations pour aller plus loin que le plan d'action sur le programme balistique, sur l'après 2025 et sur le rôle de l'Iran dans les pays voisins au Proche-Orient, ce qui pourrait aider à convaincre les États-Unis de rentrer en quelque sorte dans le rang.
Pierre Benazé, en direct de Bruxelles. Le président russe Vladimir Poutine inaugure aujourd'hui un gigantesque pont qui relie la Crimée à la Russie. C'est un ouvrage qui vise à réduire donc l'isolement de la péninsule qui a été annexée par Moscou en 2014. Long de 19 kilomètres, ce pont de Crimée traverse donc un bras de mer entre la mer d'Azov et la mer Noire. Et lors de sa dernière visite en mars dernier sur le chantier, Vladimir Poutine avait souligné que le dernier tsar, Nicolas II, avait lui aussi ce projet de construire ce pont reliant la péninsule de Crimée à la Russie. Mais la Première Guerre mondiale ne lui en avait pas donné l'occasion, avait dit alors Vladimir Poutine. 12h46, l'actualité en France, et le Premier ministre Édouard Philippe qui réaffirme dans un entretien au Monde ce soir que la SNCF va bien rester une entreprise publique. Il précise que la loi sera sans ambiguïté sur ce sujet et au même moment d'ailleurs la ministre des Transports Elisabeth Borne indique sur France Inter que la loi de réforme ferroviaire va bien préciser textuellement que les actions de la SNCF seront à l'avenir incessibles. On l'écoute.
La SNCF est 100% publique, SNCF Mobilité est 100% publique, SNCF Réseau aussi, et c'est inscrit dans la loi. Ce n'est pas une promesse que je suis en train de faire, une promesse en l'air, c'est inscrit dans la loi. On a dit l'État détient intégralement la SNCF, qui détient intégralement SNCF Mobilité et SNCF
Alors,
Réseau.
Alors, est-ce que vous allez rajouter le mot « incessibilité » ou pas ?
Ce qu'on a écrit, c'est plus fort, mais moi, si ça peut inquiéter certains, je vous le dis clairement, au Sénat, je proposerai de rajouter ce terme « incessible ». On dira deux fois la même chose. Si c'est la façon de se faire comprendre, pas de problème.
La pédagogie, c'est la répétition.
Absolument, on peut le mettre dans la loi.
Elisabeth Borne avec Nicolas Demorand ce matin. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Demande donc d'incessibilité. C'était une demande notamment de la CFDT, dont le secrétaire général Laurent Berger réclamait qu'elle soit inscrite effectivement dans le projet de loi pour éviter une vente à la découpe du groupe public à l'avenir. Alors est-ce que par cette annonce, le gouvernement essaye ou peut-il faire une brèche dans le front syndical pour tenter d'arrêter le mouvement ?
En tout cas, le mot d'ordre semble désormais d'éteindre le feu autour d'une éventuelle privatisation que le rapporteur du texte décrivait hier comme un fantasme. Or, derrière cette inquiétude soulevée à nouveau par les syndicats, il y a plusieurs interrogations. D'abord, quelles futures règles pour le capital de la SNCF ? Avec le changement de statut prévu en 2020, il y aura, on l'entendait, trois entités, une holding de tête, SNCF Réseau et SNCF Mobilité, rassemblées dans un groupe public unifié, mais, et c'est la nouveauté, sous la forme de sociétés anonymes. À l'Assemblée nationale, le gouvernement a effectivement fait préciser que son capital sera intégralement détenu par l'État. Au Sénat, il ira plus loin, affirme-t-il, en inscrivant que ce capital sera incessible. Est-ce dire deux fois la même chose ? Non. La question est même, est-ce que ce sera possible ? D'un point de vue juridique, ce n'est pas évident. Le statut de société anonyme permet entre autres de faire entrer de nouveaux actionnaires. Comment alors inscrire dans la loi qu'on ne prendra qu'un aspect des choses ? En somme, il n'est pas dit encore que le terme incessible arrive vraiment jusqu'au Sénat. Surtout, ça ne répondrait en fait qu'à une partie de la question, plus que par le haut, c'est-à-dire par la cession de part de l'entreprise de tête. C'est peut-être par le bas que pourraient arriver les principaux changements avec la filialisation pour coller à un nouveau marché ou lancer un projet. La SNCF multiplie déjà les créations de filiales. Elles sont passées en quelques années de 300 à 1 millier. C'est déjà une manière de passer d'une entreprise unifiée aux mêmes garanties sociales à une multiplicité de structures. Et c'est sur ce sujet qu'il faudra regarder attentivement les amendements qui arriveront au Sénat. L'avenir de la SNCF se jouera en grande partie dans les détails du texte.
Voilà, et on suivra tout ça avec vous, donc Catherine Pétillon, merci. Un an, jour pour jour, après sa nomination à Matignon, Édouard Philippe assume, dans une interview au Monde, faire du Macron. Et il assure que le programme de réforme va être dense jusqu'au bout. Il écarte par ailleurs tout remaniement imminent de son gouvernement face aux rumeurs de départ visant certains ministres. 1h-10, retour vers notre invité, donc le chef de la mission de Palestine en France, Salman El-Herfi. Si on essaye, monsieur Salman El-Herfi, d'aller un peu plus loin maintenant que ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'il y a des perspectives malgré tout qui sont encore ouvertes? Et est-ce que vous attendez peut-être quelque chose encore des États-Unis, du plan Trump qui devrait être mis sur la table?
Être satisfait de la réaction internationale à l'unanimité de condamner cet acte israélien, mais l'espoir, il est toujours là. Et nous attendons que le Conseil de sécurité de prendre sa responsabilité, malgré que la réaction est très faible jusqu'à maintenant. Il y a certaines parties qui disent l'égalité entre les victimes et l'agresseur, mais il y a une possibilité d'intervenir pour prendre les responsabilités telles que l'Union européenne et en particulier de la France, qui peut jouer un grand rôle de prendre le relais de la paix au Moyen-Orient. Et les États-Unis, il a écarté son rôle complètement depuis qu'il a pris sa décision au alignement complète avec Israël. Et même, ils étaient avec l'extrême droite israélien.
Pour vous, c'est plus un interlocuteur maintenant?
C'est plus un interlocuteur honnête. Et pas un seul interlocuteur comme il était avant, mais il faut le Conseil de sécurité de prendre sa responsabilité d'une population qui est sous occupation. Il y a des résolutions du Conseil de sécurité qui devraient être exécutées. Il n'y a pas un racisme dans le choix de résoudre des problèmes tels que le problème de en Europe, ou bien le problème en Asie, ou bien le problème en Afrique, et le Moyen-Orient aussi. C'est une responsabilité internationale. Et surtout, celui qui est derrière la création de l'État d'Israël, c'est le Conseil de sécurité de la Nations-Unies.
Question d'Éric Bigala.
Alors, au Conseil de sécurité, vous le savez évidemment, certains pays ont un droit de veto. Les Américains en usent, parfois on peut dire en abusent, particulièrement sur cette question. Qu'est-ce que vous attendez que ce Conseil puisse effectivement faire?
C'est vrai, il y a une menace de
même les déclarations d'hier
ont été des États-Unis, mais c'est pas empêché le Conseil de sécurité d'intervenir dans d'autres pays malgré les veto de cette puissance ou bien de l'autre. Il y a une responsabilité morale de tous les pays d'intervenir pour sauver la vie humaine. La vie humaine du peuple palestinien et surtout les enfants palestiniens qui sont menacés. Ça veut dire l'avenir du peuple palestinien est menacé. Il y a une population qui était emprisonnée et c'est à cause de ça qu'il manifeste pacifiquement. Il n'y a aucun soldat israélien ou bien aucun
c'est
citoyen
même
israélien
à l'appel
qui est
du Hamas que se déroulent ces manifestations.
Vous savez qu'on diabolise Hamas, on diabolise ça. C'est pas Hamas qui est derrière les événements. C'est le peuple palestinien qui se révolte sur la situation inacceptable.
On voit pas ça en Cisjordanie, par exemple. Ça se passe à Gaza.
Si, il passe à Cisjordanie, mais on fait toute la lumière sur ce qui se passe à Gaza. Mais c'était hier aussi. Il y a eu massacre à Jérusalem. Il y a des à Ramallah, il y a un peu partout dans les territoires occupés. La population palestinienne subit l'humiliation un peu partout sous l'occupation israélienne. C'est à cause de ça que quand on fait le focus sur la situation à Gaza, parce qu'il y a un crime de guerre qui est commis flagrantement, et quand on diabolise Hamas, c'est pas Hamas le responsable. C'est le responsable, c'est l'occupation israélienne. Il ne faut pas oublier que la Palestine, il est sous occupation israélienne.
Oui, mais pas la bande de Gaza, précisément.
Mais la bande de Gaza est partie intégrante du territoire occupé par Israël, et assiégé par Israël, et occupé par Israël, et empêché par Israël il est mis par Israël dans une grande prison qui s'appelle Gaza. Le plus grand prison dans le monde. Et la torture quotidienne de la part des Israéliens contre une population civile. Regardez quand aucun soldat israélien n'a été blessé. Aucun citoyen israélien n'a été blessé. Et voilà, on dit Hamas et autres. Non, c'est la population palestinienne qui est visée. Et surtout des enfants palestiniens qui sont visés par des balles réelles. On peut empêcher quoi que ce soit par des moyens pacifiques, comme d'autres pays dans le monde.
Une dernière question, Eric.
Salman El-Rafi, vous appelez de vos voeux, à ce que les Européens entrent à nouveau dans le dossier. Ils sont tragiquement absents. Alors comment? Comment est-ce que les Européens pourraient intervenir?
Les Européens, ils peuvent intervenir parce qu'ils sont concernés. Nous sommes voisins.
Mais au-delà, concrètement.
Il y a les intérêts européens aussi dans le Moyen-Orient qui sont menacés par l'escalade de guerres et la détérioration de la situation au Moyen-Orient. Il y a aussi une situation obligation morale vers l'Europe. C'est l'Europe qui est derrière la création de l'État d'Israël. Et c'est l'Europe qui a commis des massacres contre les Juifs. C'est pas les Arabes qu'ils ont contrés, ni les Palestiniens. C'est à cause de ça qu'il y a irresponsabilité envers le peuple juif, et envers les Juifs et envers le peuple palestinien, qui c'était le résultat de la politique coloniale européenne qui était fait la situation au Moyen-Orient et en particulier britannique.
Salman El-Erfi, merci bien d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le chef de la mission de Palestine en France. Amélioration au nord pour la météo avec des éclaircies cet après-midi. Ailleurs, un temps qui reste maussade. Température 14 à 23 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal 18h. Aurélie Kiffer.